de nous montrer ce qu'il fait aujourd'hui, pas simplement de nous montrer d'une manière objective la vérité, mais on a l'onction qui nous montre comment on peut entrer dans la réalité de toute la vérité que Dieu nous a montrée. Je pense que on a besoin d'avoir un tel désir. On doit avoir un tel désir. Et de prier. Parce que sans son aide, d'un côté, on a ce désir, et de l'autre côté, Dieu a ce désir de nous aider. Mais c'est des deux côtés. Ça ne dépend pas seulement de lui, mais de notre désir. On doit réagir à ce qu'il nous parle, à ce qu'il nous dit. On ne va peut-être pas tout comprendre, mais je peux vous assurer quelque chose. Dans l'aspect de la vérité, l'enseignement, la parole, la Bible, tout peut paraître compliqué, si compliqué. Ça a l'air que c'est quelque chose de compliqué. Mais, dans notre expérience journalière avec le Dieu vivant, ça doit être simple et pas compliqué. Ça, c'est pourquoi l'image de ce tabernacle du parvis jusqu'au lieu saint et jusqu'au saint des saints, c'est en fait très simple. Ne devenez pas compliqué. Oui, dans l'explication de chaque partie et dans chaque matériel, pour entrer, on a utilisé beaucoup de mots pour décrire cela. On a besoin d'une description. Mais j'aimerais encourager chacun de vous assurer que dans l'expérience vivante du Dieu vivant, ce n'est pas compliqué. Et ça ne doit pas être compliqué. Parce que c'est quelque chose de vivant. C'est notre relation avec le Dieu vivant. Si nous sommes, si on reste dans le monde de la connaissance, les choses vont paraître compliquées. Si on est seulement en train de manger du fruit de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, avec les chrétiens, avec toute la théologie, c'est si compliqué. Mais on n'est pas dans ce domaine, on est dans le domaine de la réelle expérience et de la réalité. On est en lien avec le Dieu vivant. Tout devient très simplifié, plus simple et pas compliqué dans l'expérience. D'un côté, c'est bon de savoir la signification de toutes ces choses. Mais d'un autre côté, on a besoin par la foi d'y entrer et de prendre cette parole, de mélanger la parole qu'on a entendue avec cette foi vivante. Ensuite, ça devient simple. Ce n'est plus difficile. Si j'aimerais connaître ce frère, si on me décrit ce frère, on me donne un grand livre avec la bibliographie de ce frère. Si je lis cette bibliographie, je veux dire, comment est-ce que je vais pouvoir connaître cette personne? C'est difficile. Il y a tant de différents aspects. Mais si tu demandes à sa femme veut dire, non, c'est si simple. Ce frère est ce frère. N'est-ce pas? Sœur, est-ce que c'est pas facile de connaître ton mari? Est-ce que tu vas dire que ton mari est quelqu'un de simple? Non. Non, parce que c'est une personne vivante. Et tu es avec cette personne. Si on expérience la réalité, ça doit être très simple et pas compliqué. Je pense plus nous connaissons Dieu, plus nous serons simples. Si on reste seulement dans une doctrine, dans un enseignement et la théologie, même si notre connaissance est juste et correcte, ça paraît si compliqué. Mais si, par l'esprit, nous entrons dans la réalité par la foi, ça devient simple. Aujourd'hui, on a affaire avec ce Dieu vivant. Si vous regardez les disciples du Seigneur quand Jésus était sur cette terre, personne n'avait vu Dieu. Mais si tu regardais à ces deux groupes de personnes, il y en a un qui était les sacrificateurs, les anciens, les pharisiens, les scribes, les sadducéens. Ce groupe de personnes, ils étaient si compliqués. Ils connaissaient la Bible, ils lisaient la Bible chaque jour, etc. Mais maintenant, ils ne connaissent pas Dieu. C'est impossible pour Dieu de connaître Dieu. Mais ces pêcheurs, Matthieu, ce n'est pas un théologue, il collecte des taxes. Et un autre est pêcheur. Mais ils connaissaient le Seigneur Jésus. Ils connaissaient Dieu. Parce qu'ils ont à voir avec le Dieu vivant. Ils ne regardent pas les livres, mais le Dieu vivant. À la fin, ils sont ceux en fait qui connaissent le Seigneur. Ils connaissaient Dieu. Parce que Jésus est Dieu. En lui, toute la plénitude, la piété qui habite dans son corps. Ils n'ont pas appris à connaître le Seigneur Jésus en lisant beaucoup de livres, mais ils ont passé du temps avec lui. Aujourd'hui, nous avons besoin de faire la même chose, passer du temps avec le Seigneur, d'entrer, d'y entrer. Si nous restons dans une doctrine, c'est un enseignement, tout qui paraît tout compliqué. Mais soyez simple. Soyez simple. Ayez la foi de Dieu. On commence par la foi. On finit par la foi. Le Seigneur, il est l'auteur. Et c'est lui qui amène à la perfection notre foi. Il est dit, le juste vivra par la foi. Abraham a vécu par la foi. Pour vous rappeler dans Hébreux 11, bien que dans le livre d'Hébreux, ce n'est pas facile de comprendre, mais l'écrivain d'Hébreux, quand il vient au chapitre 11, il nous montre le chemin pour y entrer, pour expérimenter toutes ces choses merveilleuses. Et la solution d'un Hébreux 11, c'est par la foi. Tous les autres chapitres sont, d'un côté, difficiles à comprendre. Si vous voulez expliquer toute chose, mais au chapitre 11, il y a des aspects pratiques qui sont ouverts pour nous permettre d'y entrer. Il y a tant d'expériences de ces personnes dans le passé qui ont obtenu tant de choses. Commençant par Abel, jusqu'à Moïse, jusqu'au prophète. Ces hommes ont expérimenté ce merveilleux Dieu par la foi. Ne sous-estimez pas la foi. Croyez seulement. Tel à ce que nous avons entendu, ce qu'on a lu, il faut le mélanger par la foi. Même dans le chapitre 4, ils ne sont pas entrés dans le bon pays. Ils ne sont pas entrés dans le sabbat du Seigneur. Pourquoi ? Le même évangile leur a été annoncé, mais ils ne l'ont pas mélangé avec la foi. Mais aujourd'hui, on connaît le chemin de la foi. Et la foi, ce n'est pas simplement de croire. Mais cette foi, c'est un mystère. C'est vraiment un mystère. C'est difficile de définir. Ne définissez pas la foi d'un dictionnaire en ligne. Non, cette définition, c'est ce que le monde dit, ou le monde définit par rapport au mot de la foi. Mais notre merveilleuse définition, c'est dans le chapitre 11, dans le livre d'Hébreux. La foi, est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas, la foi. Tout ce que Dieu a promis, c'est une substance, une réalité. Ce n'est pas seulement croire. Et c'est très difficile à expliquer. Très difficile à expliquer. La foi de Dieu. Cette foi, Pierre dit, est très précieuse. On a tous reçu cette foi précieuse de Dieu. C'est impressionnant. Est-ce que tu crois ou est-ce que tu as reçu cette foi précieuse? Est-ce que c'est de toi ou est-ce que c'est de Dieu? D'où est-ce que cette foi vient? C'est la foi de Dieu. C'est vraiment la foi de Dieu. Et cette merveilleuse foi, c'est mélangé avec la parole de Dieu, avec la substance en nous. Et ça, c'est ce que Paul, dans 2 Corinthiens 4, dit. Nous avons tous le même esprit de foi. Nous avons tous le même esprit de foi. D'où est-ce que la foi d'Abraham est venue? Le frère nous a dit dans le chapitre 7, le Dieu de gloire, il est apparu à notre père Abraham. Est-ce que tu crois si Dieu n'avait pas apparu et parlé à Abraham, et Abraham avait juste cru, parce qu'il devait croire qu'il allait quitter Ur en Chaldée et aller dans un endroit particulier, c'est pas où. Écoutez, c'est très mystérieux. Si Dieu n'avait pas apparu à Abraham et lui parlé, Abraham, il ne lui avait pas dit « Abraham, sors ». Qu'est-ce que Abraham aurait cru? Si l'évangile, il n'est pas annoncé à un non-croyant, comme Romains 10 le dit, comment ils vont croire si personne ne leur dit? Comment est-ce que tu vas leur dire si Dieu ne t'a pas envoyé? C'est pourquoi la foi vient de ce qu'on entend. Un mot étrange. La foi vient de ce qu'on entend. Quand Dieu t'apparaît, c'est la grâce de Dieu. Tu ne sais pas pourquoi certains croient et d'autres ne croient pas. Mais notre foi, elle vient de Dieu. Parce que Dieu nous est apparu. Comme le Seigneur Jésus-Christ a apparu à Paul sur le chemin de Damascus. Beaucoup d'apôtres étaient là. Aucun d'eux n'a pu convaincre Paul et tout le monde avait peur de Paul. Et Paul était vraiment fort contre l'Évangile, contre l'Église. Il n'avait pas de foi. Tu ne peux pas t'asseoir avec une telle personne et essayer de le convaincre. C'est impossible. Je vous mets en challenge de le faire. Tu ne peux pas le convaincre, mais le Seigneur lui a apparu. Seulement une apparition. Il lui a apparu une fois. Et ensuite, l'Esprit s'avance et bouge. Il œuvre. C'est là que notre foi commence. C'est là que notre foi commence. Paul dit que nous avons tous reçu le même esprit de foi en nous. C'est dans notre esprit parce que la foi est une merveilleuse puissance qui appartient à Dieu. C'est une puissance divine qui tourne tout ce que Dieu dit en réalité. Le frère a mentionné Genèse ce matin avec la lumière, mais d'où est-ce que la lumière vient? C'était si sombre. Pourquoi est-ce que cette lumière est venue? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a allumé la lumière? Où c'est qu'il y a l'interrupteur? Comment est-ce que la lumière peut apparaître en une seconde? C'est parce que Dieu en ayant cette merveilleuse foi qui est appelée la foi, cette puissance divine, partie de cette puissance divine où il dit que la lumière soit et la lumière fut. Ça, c'est la foi de Dieu. Comme quand le Seigneur a dit à ce figuier, j'aime utiliser cet exemple parce qu'il avait faim, il voulait prendre des figues de ce figuier. Et alors il a dit à ce figuier, maintenant, personne ne mangera de tes fruits. Et le jour d'après, quand ils sont tous revenus sur le même chemin, les disciples ont vu que cet arbre avait été brûlé. Ils étaient tous impressionnés. Si j'avais été là, j'aurais été impressionné. Comment est-ce qu'un arbre qui était si merveilleux avec beaucoup de feuilles, et le jour d'avant on était là, c'était un arbre merveilleux. En retour, il n'était plus là. Ils étaient impressionnés et demandaient, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'il a fait ça? Personne n'a laissé demander, comment est-ce que tu as fait ça? Personne n'a demandé au Seigneur. Il voulait demander, mais personne n'a demandé ça là. Le Seigneur savait qu'il parlait dans leur cœur et parmi eux. C'est impressionnant. Qui a fait ça? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Ayez la foi de Dieu. Ça, c'est une parole très mystérieuse parce que beaucoup de traductions disent ayez la foi en Dieu. Mais cette traduction, elle n'est pas fausse, mais tu peux le traduire de deux manières. Mais personne ou bien en tout cas peu de personnes ont traduit littéralement en disant « Ayez la foi de Dieu ». Comment est-ce que je peux avoir la foi de Dieu? Beaucoup de traductions disent « Ayez la foi en Dieu ». Ça correspond à notre compréhension. Mais d'où est-ce que la foi de Dieu vient? Ça vient de la foi de Dieu. Le Seigneur dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, c'est si petit, tu peux demander à cette montagne de se déplacer dans la montagne, dans le là qu'elle va se déplacer. J'ai jamais essayé maintenant. Déplace ma maison dans une autre ville. Ce sera toujours en Californie. Mais je crois que si le Seigneur dit « Déplace cette maison Corée du Sud », le jour d'après, ça va vraiment se passer. Mais ça, c'est la foi de Dieu. C'est vraiment impressionnant. C'est pour ça Hébreux 11 dit « Par la foi, nous savons que toute chose dans ce monde a été créée par Dieu en partant de rien. Tout ce que tu vois aujourd'hui, ça a été créé de rien. Tu veux attendre que je croie cela? Est-ce que tu peux faire quelque chose de rien? » On fait des façons de blague avec les saints, oui. On peut aussi faire quelque chose de rien. On a une mauvaise compréhension. Parfois, des fois, il n'y a rien. Et on argumente, et à la fin, il y a une grande explosion. On peut aussi faire quelque chose de rien. Ça, c'est une autre chose. Mais la foi, c'est vraiment impressionnant. Par la foi, nous savons. Je pensais que c'est une mauvaise traduction. Il devrait seulement dire, par la foi, nous croyons. Est-ce que tu crois ou est-ce que tu ne crois pas? Très difficile à dire. Mais maintenant, ce n'est pas difficile. Par la foi, nous savons. Par la foi, nous savons. Cette merveilleuse foi, c'est ce dont nous avons besoin pour expérimenter la réalité de ce tabernacle dans tous les aspects. Pourquoi est-ce que vous avez vu le sacerdoce dans l'aspect d'adorer, d'être assidu pour préparer les offrandes et les amener au Père? Beaucoup de personnes ne sont pas d'accord. Beaucoup ne voient pas ça, mais je ne sais pas pourquoi. Je ne veux pas l'expliquer. Mais le Seigneur a ouvert nos yeux pour voir. Ce n'est pas qu'on a une meilleure vue. Nous n'avons pas. Mais c'est écrit là. Dans notre esprit, notre esprit est un esprit de foi qui tourne ce qu'on a vu, ce qu'on a lu en substance. Et ensuite, il continue de dire que la foi est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Quelle définition étrange. Démonstration de celles qu'on ne voit pas. Comment est-ce que tu peux prouver des choses que tu ne vois pas, montrer que c'est une évidence? Explique-moi, frère, cette définition.
The substantiation of things hoped for
une affirmation des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est vraiment difficile. On aime tous avoir des évidences. Mais je ne l'ai pas vu. Ça va dire, non, je peux rester dans la barre, il n'y a pas d'évidence. Tu vas me dire que c'est la vérité. Montre-moi, donne-moi des évidences. Tu peux dire au juge, oui, je crois. Et le juge va dire, rentre à la maison. Ce n'est pas une évidence pour eux. Mais on touche la réalité, réalité spirituelle, qui est dans notre cœur, dans notre esprit. Et on prend la réalité et la substance. D'un côté, ça devient simple.
Au
verset 6 du chapitre 11, il dit, si tu viens à Dieu sans la foi, tu ne peux pas lui être agréable. Tu ne peux pas plaire à Dieu sans la foi. Personne ne peut être agréable à Dieu. Tu dois croire. Pas seulement croire qu'il existe. C'est plus que juste croire qu'il est, qu'il existe. Parce que tu vois toutes ces choses. Tu étais très logique sans Dieu. Personne ne peut faire toutes ces choses merveilleuses. Mais c'est juste que, plus que juste croire que Dieu existe. Il y a une relation, une interaction avec ce Dieu merveilleux par sa parole, par sa parole vivante. Pendant ces temps, ces trois jours, avec neuf réunions, c'est par la parole que la vision est de plus en plus claire. Et tu es convaincu que c'est la vérité. Est-ce que tu es convaincu, frère?
Oui.
Frère, es-tu convaincu que c'est vrai? Est-ce que tu es un tabernacle? Est-ce que tu es sûr? Comment est-ce que tu sais cela? Par la foi. C'est pas seulement que c'est écrit, mais c'est par la foi, tu expériences, tu sais que c'est la vérité, c'est la réalité. Et c'est pourquoi on dit constamment aux personnes la vérité, c'est pas simplement quelque chose d'objectif, une doctrine correcte ou un enseignement. La vérité veut dire la réalité. Parce que sans la réalité, il n'y a pas de vérité. Si je parle simplement d'une montre, hein, moi j'ai telle montre et une telle montre. Mais si je n'ai pas ma montre, je ne dis pas la vérité. C'est seulement une demi-vérité. Le frère va me dire, montre-moi. Comment est-ce que tu vas montrer aux personnes la réalité? On a besoin de la vérité, de la substance. Seulement la vraie doctrine et la compréhension de toutes les parts de ce merveilleux tabernacle, ce n'est pas adéquat. Nous avons besoin de la réalité, de la substance. La substance. Se tourner vers l'Esprit, tourner vers le Seigneur. Ça, c'est ce que l'Esprit fait en nous. Cette foi vient de nous par le Saint-Esprit. Quand l'Esprit parle loin, que c'est pour la substance de la parole de Dieu, ça devient la réalité de notre vie journalière. On a besoin de pratiquer cela, besoin d'expérimenter cela. Il n'y a pas beaucoup de temps, il ne reste pas beaucoup de temps pour finir l'édification jusqu'au retour du Seigneur. On a partagé des fois quelques... Souvent, qu'est-ce que Noé... Comment est-ce que Noé a échappé au déluge? Frère, qu'est-ce que tu penses? En priant, Seigneur, laisse le déluge arriver vite. Je prie pour le déluge. Même si tu pries cela devant l'autel d'or des parfums, que le déluge vienne rapidement. Est-ce que Noé a prié cela? Est-ce que tu penses que le déluge va venir très vite? Pourquoi pas? Parce que ça dépend de l'édification de Noé pour l'arche. Si Noé prend des vacances chaque semaine, le déluge ne va pas venir très rapidement. Pierre dit que nous devons hâter la venue de notre Seigneur. Oui, on peut hâter sa venue. Comment? Pas en priant qu'il vienne bientôt, mais nous devons être assidus pour bâtir l'arche, pour bâtir Sion, pour se préparer comme son épouse, pour que l'époux se prépare. Et ensuite, l'époux peut venir.
Si
l'épouse va dire, viens bientôt, il va dire, mais qu'est-ce que tu as? Tu n'es pas tu n'es pas prête. Nous avons besoin d'entrer dans la réalité. Parce que le sacerdoce et le temple, la maison spirituelle, ils appartiennent ensemble. Tu ne peux pas pratiquer le sacerdoce sans la maison spirituelle, sans le temple, sans le tabernacle. Pas étonnant que Pierre dit qu'on doit être bâti ensemble en tant que pierre vivante pour une maison spirituelle, virgule, en un sacerdoce pour offrir des sacrifices agréables à Dieu par Jésus-Christ. Si tu as des sacrifices spirituels, où est-ce que tu vas les sacrifier? Dans ta maison, dans ta cuisine, dans ton jardin? La parole de Dieu dit non. Tu dois l'amener à Jérusalem, à la maison de Dieu. Est-ce que tu amènes des sacrifices spirituels dans la maison de Dieu? Si tu n'es pas un sacrificateur, qu'est-ce que tu vas faire? Qui va le faire? Toutes ces choses, ensemble, tu as besoin de tous ces aspects ensemble. C'est pour ça que le Seigneur amène tous ces aspects dans la vie de l'Église aujourd'hui. Ne sous-estimez pas l'importance de chaque parole. Ce n'est pas seulement un thème duquel nous parlons, non. Toutes ces choses doivent devenir notre expérience. Aujourd'hui, individuellement, chacun d'entre nous est un tabernacle vivant, est un temple vivant du Seigneur. Brièvement, frère a mentionné cela. Dans Jean 1, au commencement, était la parole, la parole. Il est devenu ce tabernacle, il a habité parmi nous. Cette parole est la même parole que le tabernacle. Et si la parole tabernacle est parmi nous, personne ne va comprendre. Mais s'il dit habitait parmi nous, oui, ça ils comprennent. Mais comment est-ce que Dieu habite parmi nous si le Seigneur Jésus n'est pas un tabernacle? Et si tu continues de lire dans Jean 2, est-ce que tu te rappelles dans Jean 2, le Seigneur a nettoyé le temple à Jérusalem? Pourquoi? Parce qu'ils vendaient, ils étaient en train de marchander des moutons, ils faisaient des échanges de monnaie. Le Seigneur était en colère. Il a tout renversé, il les a chassés. Il leur a dit, vous faites de la maison de mon père une maison de marchands, une maison de voleurs. Mais ce n'est pas tout, il a continué à dire parce que les personnes lui ont demandé, qui t'a donné l'autorité de faire cela? Qu'est-ce que le Seigneur a répondu? Détruisez ce temple. Détruisez ce temple. De quel temple est-ce qu'il est en train de parler? Il parle de lui-même. Détruisez ce temple. Vous pouvez lire dans Jean 2, verset 19, détruisez ce temple et en trois jours, je le relèverai. Les Juifs disent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. C'est 46 ans. Et toi, en trois jours, tu le relèveras? Ils se moquaient de lui. Mais le Seigneur n'était pas en train de parler du temple de son corps. Le Seigneur lui-même, en tant qu'une personne, parole est devenue chair. Dieu est devenu un homme. Il est la personne de Jésus-Christ. Et cette personne est le temple du Dieu vivant. Et cette parole, le temple, en grec, ça veut dire le même mot que dans 1 Corinthiens 3. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Tu, c'est pas simplement individuel, mais de manière coopérative, en disant l'Église, bâtie avec l'or, l'argent et les pierres précieuses, et dans 1 Corinthiens 6, est-ce que vous ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous, et vous ne vous appartenez pas à vous-même? Combien de fois est-ce que nous avons cette conscience? Je suis un temple de Dieu. On pense qu'on est libre. Oui, je suis libre de faire ce que je veux. Mais l'argument de Paul, c'est non, tu ne peux pas. Tu ne t'appartiens pas à toi-même. Tu es crucifié avec Christ. Et ton cœur, il ne dit pas simplement l'Esprit, c'est le temple du Saint-Esprit. Il dit non, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Voulant dire, en se référant à ce que le Seigneur a dit, son propre corps, c'est le temple de Dieu. Détruisez ce temple. Il se réfère au temple de son corps. Je le rebâtirai en trois jours. Et les disciples n'ont pas compris. Les disciples ont pensé qu'il se référait à ce temple à Jérusalem, mais Mais il parlait de ce corps. Parce qu'il savait que le Seigneur qui voulait le tuer détruisait ce temple. Pas jusqu'à ce que le Seigneur ressuscite des morts. Ensuite, les disciples ont compris. À ce temps, le Seigneur se référait à son corps. Son corps comme le temple. Quelle est la conséquence de connaître cela? C'est merveilleux et très beau de voir ce schéma sur ce temple. J'apprécie les frères qui ont fait cela pour montrer ce merveilleux lieu saint en or. Ça ressemble vraiment à de l'or. Tout le monde est sur Internet. Mais vous êtes ce temple. Nous sommes ce temple. Individuellement, chacun d'entre nous est un temple vivant de Dieu. Ou si tu ne crois pas que l'Esprit de Dieu habite en toi, où est Dieu aujourd'hui pour toi? Il habite en moi, en chacun de nous. En ayant réalisé cela, j'espère que ça va changer notre vie journalière avec cette conscience. Je suis un temple de Dieu.
Le
temple de Dieu doit être saint.
N'est-ce pas?
Est-ce que le temple de Dieu ne doit pas être saint? Maintenant, vous le réalisez que la sanctification et de rechercher la sanctification, c'est si important pour avoir un temple saint dans le Seigneur. Dans Éphésiens 2, verset 21, en qui, par Christ, on est bâti ensemble en un temple saint dans le Seigneur. Ça, c'est exactement le même mot que dans Jean 2, quand il détruisait ce temple. Ou dans 1 Corinthiens chapitre 3 et 6, ou dans 2 Corinthiens chapitre 6, vous êtes le temple du Dieu vivant. Qu'est-ce qu'un temple de Dieu a à faire avec les idoles? De connaître la théorie, c'est une chose, mais d'avoir cette conscience que ça, c'est notre fardeau. C'est aussi notre fardeau. Mon fardeau pour moi-même. Je ne m'appartiens pas à moi-même, je suis le temple du Dieu vivant. Comment est-ce que le Seigneur va se sentir d'habiter en moi et d'habiter en toi si on a encore tant d'idoles dans le monde et d'être mélangé avec des choses charnelles? Ah, c'est terrible. Comment est-ce que tu te sentirais si tu te trouves dans un appartement qui n'est pas bien, pas rangé, qui est en désordre, qui est sale, qui n'est pas propre, qui ne sent pas bon?
Donc
tu ne jettes pas les déchets, tes déchets restent pendant un mois dans ta maison. Et tu ne remarques même pas ça parce que tu habites là. Ça sent, mais l'odeur devient normale. Et si quelqu'un te rend visite, il va partir de ta maison. On n'a pas cette conscience. On pense même qu'on a raison. Je pense que je suis OK. Est-ce que tu ne penses pas non plus?
Jackie and Priscilla there. Are you okay?
Mais sœur, est-ce que c'est OK?
You think we are OK?
Tu penses que c'est OK?
Nobody thinks we are abnormal.
Personne ne pense qu'on n'est pas normal. Mais demande Dieu, qu'en est-il de demander propriétaire de ce temple, cette personne qui habite dans ce temple, Dieu saint, Dieu qui est saint? Pas étonnant que 1 Pierre 1, parce que celui qui vous a appelé est saint, alors soyez saint dans votre esprit. Est-ce qu'il dit saint? Dans toute votre conduite, dans ton cœur. Dans ton cœur, dans tes émotions, non, dans toute votre conduite. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous faites en prenant votre cœur? Pour ça que 1 Thessaloniciens 5, 23, un verset qu'on connaît très bien, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Tout entier. Est-ce que nous sommes sanctifiés entièrement, tout entier?
Ou
est-ce qu'on appelle à celui vivant? Celui qui vous a appelé est fidèle, c'est lui qui va le faire aussi. Combien de fois est-ce que je dois dire à mon Père, aide-moi de faire cela? Je ne peux pas le faire par moi-même. Tu es celui qui a promis ça, tu es le fidèle. Sanctifie-moi. Sanctifie-nous entièrement, sauve-nous parfaitement. Soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait, mais je dis non. Personne n'est parfait. C'est une très bonne excuse. Est-ce que tu ne sais pas cette citation? Céleste, personne n'est parfait. Est-ce que tu n'aimes pas dire ça? C'est quelqu'un qui n'a jamais dit ça? Tu dois être alors, sinon tu es parfait. Personne n'est parfait. C'est une excuse. Mais le Seigneur a dit dans cette constitution céleste, soyez parfait comme votre Père céleste est parfait. Est-ce que c'est possible? Ou est-ce que ce n'est pas possible, frère? Aide-moi. La parole dit c'est possible. Je te demande à toi, qu'est-ce que tu dis? Possible par la foi. Par la foi. Et si je ne prends pas cette parole par la foi, c'est impossible. Sinon, tu ne seras jamais perfectionné. Mais si tu crois que c'est Dieu et qu'il est Dieu, c'est pour ça qu'il est l'auteur. C'est lui qui a créé la terre et les cieux. Tu penses que ce Dieu qui a créé ce magnifique univers peut être si riche, magnifié, beaucoup d'aspects. Il a créé cela par la parole de sa puissance. Il l'a soutenu jusqu'au jour d'aujourd'hui. Qu'il ne peut pas nous perfectionner. Je peux te demander, frère, est-ce qu'on peut y arriver d'être des prémices? Amen. Oui, le Seigneur. Amen. Parce que si personne croit, alors il n'y aura pas Apocalypse 14. 144 000 qui suivent l'agneau. Où sont les prémices? Sous longtemps que cette parole est écrite là, c'est possible. Souviens-toi, chaque parole que Dieu a parlé, chaque parole que Dieu a dit, chaque iota va s'accomplir. Chaque parole de Dieu, tu dois le prendre. Je suis heureux que tu dises Amen. Je vois une sœur. Sœur, est-ce que tu peux le faire? Pouce levé. La montrer son pouce levé. Oui, nous pouvons. Parce que Dieu l'a dit. Alors ça doit être possible. Sinon, Dieu mentirait. Ce que Dieu a parlé va s'accomplir. Toutes les autres choses passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Chaque mot, si tu le prends par la foi, tu mélanges avec la foi, c'est possible. Il va s'accomplir. Maintenant, en revenant sur le tabernacle, combien est-ce qu'il reste encore de temps? En revenant au tabernacle, tu peux voir combien notre Dieu est saint. Il y a trois couches de séparation. La séparation extérieure qui est avec le parvis, ça, ce n'est pas assez non plus. Beaucoup d'entre nous, les croyants, après qu'on est sauvé, on change. Avant qu'on soit sauvé, je connais beaucoup de croyants après qu'ils soient sauvés. Ils ont vraiment changé. Ils ont laissé les choses mondaines. Leur manière de vivre a changé. Mais ça, c'est seulement la séparation dans le parvis. C'est une des raisons pourquoi le bois d'acacia n'est pas mentionné là. Bien que c'est sûr que c'est du bois d'acacia, oui. Parce que toutes les autres choses sont faites du bois d'acacia. Mais il y a une raison pourquoi ce n'est pas mentionné. Parce que c'est juste le début de notre vie chrétienne qui change. Ces changements sont des changements extérieurs. C'est pas quelque chose. Ces changements doivent être après aussi ensuite intérieurs. C'est pour ça que beaucoup de croyants sont juste extérieurement. Ils sont bons, juste extérieurement. Mais l'intention de Dieu, c'est d'avoir la même séparation. Et ça, c'est une séparation. Tu vois ce bois d'acacia qui est recouvert d'or, qui sont mis les unes après les autres, ces planches. C'est pour ça, aujourd'hui, tu peux voir beaucoup de croyants, ils ne peuvent pas être édifiés ensemble. Il y a tant de divisions, de disputes, c'est difficile d'être bâti ensemble. Vraiment difficile. Même mari et femme d'être bâtis ensemble. C'est pourquoi? Parce que dans notre homme naturel, on ne peut pas être bâti ensemble. Peut-être pour une semaine, après encore un problème. Et ensuite, c'est encore de nouveau mis ensemble. Après un mois, ça tombe à nouveau. Ok. Ensemble, on est collés ensemble. Ça se répète une fois après l'autre, tout qui tombe. L'édification de ce merveilleux tabernacle, spécialement le sanctuaire, sont mis ensemble avec de l'or et avec du bois d'acacia. Il y a des anneaux d'or où les barres peuvent se passer, 5 barres, une longue qui passe au milieu en sortant, en tenant toutes les barres, qui montre que nous avons besoin, quelques-unes qui sont vraiment bâties ensemble. C'est impossible s'il y a 100 personnes dans l'église à Toronto, tout le monde sont bâtis ensemble. C'est pas pratique. Oui, il y a une unité, mais aussi des groupes qui sont bâtis ensemble dans différents services, ce qui est aussi bon. C'est pour ça les quatre autres, ils font des parties et que celle, la seule qui passe dans toutes les planches, qui montre que l'édification doit aussi être pratique. Tu peux voir cette séparation dans le lieu saint, elle est vraiment différente que cette séparation dehors. La clôture extérieure, où les piliers sont éloignés les uns des autres, et les connexions sont pas vraiment solides. Et les poteaux sont tenus avec deux cordes de chaque côté, avec des sardines dans le sol. Elles sont pas vraiment stables. Mais là, tu peux voir le bois d'acacia qui est recouvert d'or. C'est pas seulement solide, mais c'est magnifique. Tu peux voir la gloire du Seigneur. Si tu entres, tu vois les chérubins. Tu peux voir l'or, mais tu vois pas les chérubins. Parce qu'on n'est pas vraiment familier avec les chérubins, mais les chérubins sont magnifiques. L'or, c'est la substance, mais les chérubins qui sont il y en a deux pour la couverture et deux au plafond. Ils sont merveilleux. Ils sont brodés. Ça prend du temps, la capacité de broder dans ces grandes partie de ces couvertures avec quatre couleurs. C'est pas si simple. Et ensuite, c'est pas assez. Dieu est pas là dans le lieu saint, bien que c'est déjà quelque chose de saint. Mais Dieu, il habite dans une place, dans un lieu qui est appelé le Saint des Saints. On peut parler de cela comme une doctrine, mais j'espère qu'on ait tous ce désir, cette conscience, une réalisation profonde combien saint est notre Dieu. Nous, mais les croyants, après avoir été sauvés depuis si longtemps, on a besoin de cette conscience intérieure de ce Dieu de saint qui habite, comme Paul a dit, d'une lumière inapprochable. Le Dieu saint, il est saint. C'est pour ça que moi et toi n'est pas si saint. Parce qu'on n'est pas cette conscience adéquate et cette compréhension de ce Dieu saint. Dieu est saint. Et même ces merveilleuses offrandes dans Lévitique 1, c'est la description de toutes les offrandes. Elles sont très saintes. Quand on se prépare, quand on prépare les offrandes, on lit souvent très rapidement. Et à la table du Seigneur dimanche, il faut que je cherche, un mouton, une chèvre, peut-être un pigeon, une tourterelle. Vite préparer quelque chose pour offrir au Père. Mais on a affaire avec des choses qui sont très saintes. La nourriture là, dans le lieu saint, les pains de proposition, ils sont très saints. Et les sacrificateurs qui mangent ces pains très saints, ils doivent le manger dans un lieu saint. Toutes ces choses doivent nous aider à entrer dans la conscience, dans la profonde réalisation profonde dans nos pensées, dans notre cœur, dans notre conscience. Seigneur, aide-moi à comprendre ce que ça signifie d'être saint. Et c'est une partie de ça, d'être sanctifié entièrement. Que le Seigneur donne sa grâce, nous aide. Et je fais confiance à l'Esprit de nous guider dans l'expérience de toutes ces choses. Sinon, il ne va pas nous parler, il ne va pas nous ouvrir sa parole concernant toutes ces choses merveilleuses. On a aussi besoin de voir que l'expérience de toutes ces magnifiques offrandes, ce n'est pas pour l'adoration, pour amener au Père. Bien sûr, c'est aussi pour cela, mais il faut réaliser pourquoi Dieu nous a donné de telles instructions, parce que s'il ne nous commande pas de faire cela, je ne pense pas qu'on le fera. Mais le but, c'est de nous amener dans le Saint des Saints. C'est pour ça que nous avons Hébreux 10, approchez-vous dans le Saint des Saints. Le chemin est ouvert. Le chemin est ouvert. Le rideau a été déchiré en montrant que l'œuvre de rédemption a un magnifique but. C'est pas seulement le pardon, c'est pas seulement pour la rédemption, c'est pas seulement d'être libéré du péché, pas que nos péchés soient pardonnés, pas pour avoir la communion avec Dieu, mais c'est pour toi, pour entrer, pas seulement dans le lieu saint, mais dans le Saint des Saints. Le Saint des Saints. Ça, c'est le but. C'est pour ça qu'il est mentionné spécifiquement quand le Seigneur est mort. Quand il a donné son esprit, une traduction dit qu'il nous a donné le fantôme, il nous a donné l'esprit pour nous guider. Quelque chose de magnifique s'est passé. Dieu a déchiré le rideau du haut en bas. Si les hommes l'auraient déchiré, ça aurait été du bas en haut. Mais quand Dieu l'a fait, c'est de en haut en bas. Pour ouvrir le chemin dans le Saint des Saints. Et ça doit aussi nous convaincre combien c'est précieux d'y entrer. Est-ce que tu peux t'imaginer, tu as un chemin libre pour entrer dans la Maison Blanche chaque fois que tu as le désir de voir le président? Qui habite à Washington, D.C.? Mais à New York, vous n'êtes pas trop loin. Supposons que vous avez un accès libre, illimité, sans expiration. Vous êtes invité à manger avec le président à tout moment, comme vous le désirez. Qu'est-ce que vous en pensez? Combien souvent est-ce que vous iriez? chaque jour. Bon, pour avoir des communions avec Trump. C'est une invitation ouverte pour le Dieu glorieux. Dieu est glorieux. Il n'est pas effrayé de nos imperfections, de notre condition imparfaite. Plus tu t'approches et que une condition imparfaite est exposée, le résultat ne sera pas la mort, mais la repentance et la guérison. Et tu vas devenir de plus en plus saint et glorieux parce que tu reflètes la gloire du Seigneur. C'est comme ça que la transformation se passe. D'après 2 Corinthiens 3, 17 et 18, sans ce voile, et Dieu, je ne serai pas qualifié. Le Seigneur dit, viens. Tu as ce magnifique cuve avec l'eau de vie, avec l'eau vivante. Ensuite, tu as Christ comme cette offrande inclusive qui couvre chaque aspect pour toi. Et tu te donnes ces merveilleux habits. Revêt-toi de Christ. Entre. Est-ce que tu as toujours peur d'y entrer? Est-ce que tu es pris par quelque chose que tu as fait hier? Non, je ne peux pas entrer dans le saint, dans le lieu saint. Il y a l'autel avant. La cuve d'airain. Tu peux te dévêtir du vieil homme et revêtir Christ. Et ensuite y entrer. Il y a le sang précieux. Ton cœur peut être lavé d'une mauvaise conscience. Hébreux 10 dit, qu'est-ce qu'on a encore besoin? De quoi est-ce qu'on a encore besoin? Qu'est-ce qui n'est pas inclus? Rien. Plus tu entres et tu observes, contemples la gloire du Seigneur, plus le Saint-Esprit en nous va nous changer, nous transformer dans la même image. La gloire du Seigneur va briller en nous. Tu ne peux pas venir devant la gloire du Seigneur sans être rempli de sa gloire. Si tu entres dans un lieu où chaque personne fume, alors aussi tu vas aussi sentir la fumée. Bien. Si je vais dans un restaurant du Vietnam, alors je vais sentir la nourriture vietnamienne. Si je vais dans un restaurant chinois, quand je ressortirai, je vais changer mes habits parce que tous mes habits vont sentir la nourriture chinoise. Si tu vas dans le Saint des Saints et tu es dans cette atmosphère avec la gloire du Seigneur, il l'encens, merveilleux encens. Tu vas ressortir, comme Paul dit, d'avoir l'arôme de Christ, le parfum de Christ, d'une bonne odeur. C'est pas fait étonnant que quand Moïse a passé 40 jours sur le mont Sinaï, qu'est-ce qui s'est passé quand il est revenu, quand il est redescendu, son visage était brillant. Il n'a même pas réalisé cela, je pense. Parce qu'il était dans cette atmosphère sainte. Plus nous passons du temps dans la présence de Dieu, dans le Saint des Saints,
That may very well be the secret of our transformation.
Ça peut vraiment être le secret de notre transformation.
It's not a doctrine.
C'est pas une doctrine qui va nous changer.
But it is spending.
Mais c'est de passer notre temps dans la présence du Seigneur.
Tell the Lord, Lord, I'm coming.
Dire au Seigneur. Je vais dans le Saint des Saints. C'est aussi là que le Seigneur lui a parlé, parce que le Seigneur a dit dans Exode 25-22, là, là, sur le couvercle expiatoire, là, il lui dit, je te parlerai et je te donnerai les commandements pour tout le peuple. Là, je te parlerai. Et de parler, c'est vraiment, sa parole est vraiment merveilleuse. C'est une parole vivante, on a besoin de cette parole. Dans notre vie chrétienne, on a aussi besoin d'entendre ce que l'Esprit dit, ce que le Seigneur nous parle, par Christ, par l'Esprit. Aux églises, on a besoin d'écouter sa parole. Ensuite, une autre chose en plus, dans ce lieu saint, et l'arche, le Seigneur a promis aux vainqueurs à Pergame, pour eux, pour ceux qui vaincront, je leur donnerai à manger de la manne cachée. Où est-ce que cette manne est cachée? Les pains de proposition ne sont pas cachés, ils sont affichés. Il y a deux piles de six. Quand tu entres, ils sont là. Mais si tu rentres dans le Saint des Saints, il y a un autre type de nourriture qui est là, qui est cachée. Dans l'arche. Avec le chose en or, c'est vraiment caché. Ça doit vraiment être précieux. Si quelque chose est caché par Dieu, ça veut dire que c'est vraiment très précieux. Si tu as un tel diamant si grand, jamais vu un diamant si grand. Tu ne vas pas l'afficher quelque part, mettre sur ton piano. Tu vas le placer dans une banque. Cette nourriture particulière, elle est donnée à ceux qui sont fidèles et qui sont vainqueurs. Celui qui vaincra. L'arbre de la vie, c'est le paradis de Dieu, c'est ouvert. Mais cette manne cachée, nous devons dire au Seigneur, donne-moi de cette nourriture, j'ai envie de manger. C'est secret. Les secrets de l'Éternel. Elle est révélée à ceux qui le craignent. Ceux qui ont une relation étroite avec lui. Dieu a dit, comment est-ce que je peux garder mon secret devant mon ami Abraham? Même Dieu ne pouvait pas garder son secret pour lui. Je ne sais pas si Dieu va avoir un secret devant toi et devant moi. Est-ce que tu aimes connaître ses secrets? Dis au Seigneur, Seigneur, quel est ton secret? Dis-moi ton secret. Ça dépend. Nous avons besoin d'être comme Abraham. Nous devons avoir cette telle relation si étroite avec le Seigneur. Cette magnifique chose, le tabernacle, doit devenir notre expérience, parce que nous sommes ce tabernacle vivant. J'aime ce que le Seigneur a dit par rapport au Saint-Esprit. Vous le recevrez de moi de plus en plus, plusieurs choses de lui, frais. Il va vous être donné à vous, va leur être montré. Ensuite, si on lit par exemple le livre d'Actes, les apôtres du Seigneur, ils ont entendu une offrande personnelle, les secrets du Seigneur. Même Paul a expérimenté cela. Il a pris un tour dans le paradis de Dieu et dans le troisième ciel. Ça, c'est son secret. Mais quand il a entendu la parole vivante que personne ne peut dire, il ne pouvait même pas dire ce qu'il avait entendu. Parfois, tu dois rigoler avec le Seigneur un peu. Lui demander pourquoi pas tu ne me prendrais pas pour un tel tour avec toi. Est-ce que tu ne veux pas faire un tel tour? Mais je crois que personne d'entre nous est qualifié. Mais bientôt, nous serons là. Comme Jean dit, nous croyons. Un magnifique but et un futur. Mais ce futur glorieux, il doit y avoir ce goût déjà dans notre expérience journalière.
Amen.
Amen. Louez le Seigneur. Que le Seigneur puisse encourager chacun d'entre nous.
Amen.